Le monde agricole et celui de la transformation alimentaire protestaient vivement depuis un peu plus d'un an devant la pratique de certains distributeurs et des chaînes d'épicerie d'imposer fréquemment des frais à des fins aucunement reliées aux produits livrés. Par exemple, une chaîne réduisait les paiements aux fournisseurs de quelques points de pourcentage pour financer la rénovation de ses magasins. Toutes sortes d'autres frais étaient aussi déduits des factures des agriculteurs ou des transformateurs. La pratique en arrivait à fragiliser des entreprises dont les marges étaient déjà faibles. Au moins un distributeur indiquait cependant au cours de la dernière année qu'il n'entendait pas aller dans cette voie des frais aux fournisseurs. Il s'agit de IGA Sobeys. Simultanément, à l'initiative du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, tous ses collègues provinciaux et la ministre fédérale Marie-Claude Bibeau avaient commencé à chercher une façon de discipliner les distributeurs et épiciers. Maintenant, peut-être est-on sur la voie d'une solution. IGA Sobeys propose un code de saine relation d'affaires entre fournisseurs et détaillants. J'ai discuté de cette proposition avec le vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Sobeys, Pierre Saint-Laurent.
Comme vous l'avez bien dit, c'est une proposition. On ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. C'est le fruit d'une réflexion qu'on a fait avec des partenaires fournisseurs. C'est le fruit d'une réflexion aussi de ce qui se fait aussi à travers le monde. Donc, c'est rien de nouveau. Je pense qu'on peut juste essayer de prendre un peu d'avance, un peu de leadership pour inciter le plus de gens dans l'industrie à joindre c'est des pratiques équitables, dans le fond. C'est le gros bon sens. Grosso modo, c'est important en affaires que les choses se fassent de façon équitable, des négociations équitables, des bonnes relations commerciales, de la transparence, de la certitude économique entre les différentes parties. Ça, je pense, c'est l'élément le plus important. C'est ce qu'on recherche. Quand il y a des mauvaises surprises de part et d'autre, plus il y a d'incertitudes, moins les gens sont intéressés à investir. Puis on a vu durant la pandémie comment que c'est important que notre chaîne d'approvisionnement soit robuste. Et je pense que c'est venu accélérer la réflexion de nous dire comment on peut faire comme industrie pour rendre notre chaîne d'approvisionnement encore plus solide, donc réduire des incertitudes, favoriser l'investissement au niveau manufacturier, même au niveau des détaillants. Donc, plus les manufacturiers sont en santé, plus les détaillants sont en santé au Québec et au Canada, plus notre chaîne d'approvisionnement est solide et plus c'est bon pour notre économie également. Parce que si ce n'est pas le cas, ben il y a des gens qui vont entrer dans nos marchés, puis ils vont intéresser nos consommateurs parce qu'ils vont avoir innové, ils vont avoir investi, puis à la fin de la journée, ben notre économie va être plus fragile, notre chaîne d'approvisionnement au Québec et au Canada va être plus fragile. C'est une logique, puis c'est une question d'industrie. Donc, c'est pas juste une question d'IGA ou de Sobeys. Je pense que c'est une question que toutes les parties prenantes doivent être à la table. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a sorti ça aujourd'hui. On est fiers de démontrer qu'on est capable de s'entendre entre les détaillants et les fournisseurs sur des principes fondamentaux. C'est ce qu'on peut retenir, là, des principes qui sont attachés à cette proposition de code.
Dans les consultations que vous avez menées préalablement à la préparation de ce code, est-ce que vous vous êtes entre autres inspiré de ce qui existe actuellement en Europe, qui dans plusieurs cas émanent de gouvernements qui ont imposé au secteur? Là, est-ce qu'il y a des choses qui sont semblables, des similitudes avec ça?
Tout à fait. Évidemment, oui, on a fait nos devoirs, on a regardé de ce qui se faisait à travers le monde. Notre attention a été retenue particulièrement par le code en place au Royaume-Uni. On a trouvé que c'était celui qui se rapprochait le plus de nos intentions. Je vous parle quand je dis nos fournisseurs et détaillants. On est allé même plus loin que ça. On s'est permis d'engager ensemble, détaillants et fournisseurs, l'arbitre du code de conduite au Royaume-Uni, qui a été l'arbitre pendant près de 6 ans, je crois. Donc, on a eu la chance d'avoir sa perspective, ses conseils, à quoi ça a servi, qu'est-ce qu'elle ferait différemment aujourd'hui. Donc, on a adapté le code à notre réalité ici au Québec et au Canada avec l'expertise de quelqu'un qui l'a vécu puis qui l'a administré. Donc, effectivement, le code, ce qu'on propose, est très inspiré de ce qui se fait de mieux à travers le monde.
Je reviens avec l'Europe, l'Angleterre entre autres. Il y avait une situation véritablement de crise qui a poussé les gouvernements à agir là, pour un peu réguler et calmer le jeu entre les fournisseurs et les détaillants d'alimentation. Ici, on n'était pas rendu à un niveau de crise important, mais il y avait quand même des gens dans le secteur de la distribution et du détail qui imposaient toutes sortes de frais. Chez IGA Sobeys, vous n'avez pas voulu embarquer dans ça. Vous vous êtes tenu en retrait de ça, mais aujourd'hui, vous arrivez avec une proposition justement pour éventuellement que tout le monde s'embarque dans une position d'honneur, si on veut, de respect des partenaires, de tous les partenaires dans ce jeu-là.
Évidemment, on a nos valeurs, on a nos pratiques. Je veux pas aller dans l'enjeu. Encore une fois, moi, j'aimerais ça que ce soit toute l'industrie qui joigne à ce mouvement-là. Je veux surtout pas diviser l'industrie. Au contraire, je veux l'unifier. Nous, ce qu'on pense, puis très, très humblement, des exemples, des frais rétroactifs ou des frais imposés unilatéralement, sans négociation, on pense que c'est pas sain. Puis ça crée de l'incertitude. Encore une fois, je reviens à la certitude économique. L'environnement économique le plus certain, il y a déjà assez d'incertitudes comme ça. Entre nous, on peut-tu créer un environnement qui est sain à faire des affaires et à faire prospérer nos entreprises mutuelles? Donc, c'est ça le fondamental. Je veux pas revenir parce qu'il n'y a personne de parfait. Là. Nous non plus, on n'est pas parfait. Je veux pas avoir la prétention de ça du tout. C'est un examen de conscience qu'on doit tous prendre. Puis, écoute, je reçois plein de courriels aujourd'hui de gens qui saluent l'initiative. J'ai eu la chance de parler aussi évidemment, à plein de fournisseurs, à des regroupements de fournisseurs. Même, vous parliez de gouvernement tout à l'heure, ça a pris plus de 10 ans. Hein? À partir du moment où il y a eu ce que vous appelez une crise là, au Royaume-Uni, ça a pris 10 ans au Royaume-Uni à mettre en place ce code de conduite-là. Donc, j'espère qu'on va être un peu plus rapide que les Britanniques à mettre ça en place, malgré que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis la pandémie aussi, faut pas sous-estimer. Là, la pandémie est venue accélérer la réflexion. Là. Je pense que ça a été un réveil de voir nos tablettes vides pendant quelques heures. Là. On a dit « Ah, c'est tellement important notre chaîne d'approvisionnement ». Je pense qu'on a démontré que la chaîne, de façon générale, est très résiliente. Elle a très bien performé au Québec et au Canada grâce à l'industrie, grâce à plein de fournisseurs locaux, régionaux en particulier. Le fait d'être proche des fournisseurs régionaux, locaux, ça a permis de remplir nos tablettes aussi. On en est excessivement reconnaissant. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui a été fait durant la pandémie. Et au début de la pandémie, si vous vous souvenez, là, c'était la folie là, au niveau des ventes. Et pour les petits fournisseurs, ça a créé des impacts importants, dans le sens qu'ils vendaient beaucoup plus que normal. Donc, il a fallu qu'ils augmentent leur capacité de production, donc des coûts à engager, évidemment, pour produire plus. Et nous, chez Sobeys, ce qu'on a fait, c'est on a accéléré les termes de paiement. Donc, au lieu de payer dans X nombre de jours, on a décidé de payer plus rapidement pour aider les fournisseurs locaux et régionaux à suffire à la demande sans mettre leur entreprise à risque ou leur cash flow à risque. On a fait ça pour les petits fournisseurs à travers le Canada. C'est près de 13 000 fournisseurs à qui on a donné ces conditions-là pour leur permettre de soutenir la chaîne d'approvisionnement puis de nourrir les Québécois et les Canadiens pendant cette épreuve-là.
Donc, vous souhaitez la mise en place là, de mécanismes, de façons de faire qui seraient beaucoup plus respectueuses de chacun des partenaires. Mais certains vous diront peut-être, est-ce qu'on ne vient pas jouer dans le niveau de concurrence entre les entreprises à ce moment-là?
Non, pas du tout. Ça n'influence pas les négociations. On ne dicte aucun paramètre en chiffres. Qu'on fait la promotion de, c'est une entente, il faut qu'elle soit négociée de bonne foi, dans le respect. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours s'entendre, mais ça va être négocié. Fait que quand c'est négocié, ça, encore une fois, ça fait partie des affaires de négocier. On ne dit pas qu'on va être plus facile à négocier, là, loin de là. Sauf que ça va se faire respectueusement. Puis, à la fin de la journée, ça va être comme plus prévisible que soudainement se faire imposer des frais qui ne sont pas prévus. J'essaie de me mettre à la place d'un fournisseur. Il y a un budget, il y a une entreprise à faire fonctionner. Les mauvaises surprises, là, c'est pas souhaitable. Par contre, des contrats, quand on négocie une entente, on sait pour combien de temps on négocie une entente. Fait que le manufacturier sait qu'il y a une entente exempte avec tel détaillant pour tant de temps. Donc, dans sa planification de son entreprise, il sait qu'à un moment donné, il y a une négociation à avoir avec un détaillant, un de ses clients, Puis ça permet de créer une certaine sécurité, puis une certaine planification de ce qui s'en vient. Donc, on va continuer de négocier comme on a toujours négocié pour les intérêts de nos clients. Nos consommateurs nous demandent d'être compétitifs. On a l'obligation de rester compétitif parce qu'encore une fois, c'est pas juste un marché qui est québécois ou qui est canadien. Il est de plus en plus international. Si on n'est pas compétitif, nous, puis il y a des joueurs étrangers qui le sont, ben c'est pas bon pour notre économie. Donc, on a l'obligation, nous, comme détaillants, de rester compétitifs. Les fournisseurs ont l'obligation d'être compétitifs eux aussi parce qu'eux aussi ont de la compétition étrangère. On est tous dans le même bateau. On est tous condamnés à réussir et à être compétitifs.
Donc, encore une fois, un climat plus serein va être favorable à des petites entreprises locales, à des entreprises québécoises, si on parle spécifiquement du marché du Québec, et donc leur donner des chances égales là, sur le marché.
Bon, je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour IGA, certainement. Les fournisseurs régionaux, locaux, chez IGA, ont une place très, très importante. Puis vous le savez, le modèle d'affaires de IGA, c'est des marchands indépendants impliqués dans leur communauté. Nos marchands ont la latitude d'encourager localement un fournisseur à la fois. Dans leurs ententes commerciales avec nous, on peut pas parler, comme on dit, des deux côtés de la bouche, dire en même temps de s'impliquer dans sa communauté et pas soutenir ses entreprises locales. Généralement, une petite entreprise, elle veut prospérer, elle veut grandir. Donc, des exemples de fournisseurs qui ont commencé petits, dans un magasin, dans 10 magasins, qui aujourd'hui sont dans l'ensemble de la chaîne, ou même, dans certains cas, au Canada. Donc, Sobeys, à l'origine, était une entreprise familiale locale dans une petite ville de Nouvelle-Écosse. Donc, la famille Sobeys, qui est encore omniprésente dans la gestion de l'entreprise, c'est au cœur de ses valeurs. Et c'est au cœur des valeurs des marchands IGA. Quand vous lisez la proposition de code, c'est des principes fondamentaux qui s'appliquent autant à des petits fournisseurs, à des grands fournisseurs, à des fournisseurs locaux, régionaux. Vous allez lire ça, vous allez dire, mais ça me semble que c'est le gros bon sens, mais c'est malheureux, mais faut mettre ces balises-là pour que les pratiques commerciales soient saines. Fait que pour les fournisseurs locaux, régionaux, puis encore une fois, c'est pas du marketing, hein, de parler de fournisseurs locaux, régionaux, des fois, c'est ça qu'on peut percevoir, là. Mais on est en affaires pour faire des ventes. La raison pourquoi on a des produits locaux sur nos tablettes, c'est aussi simple que c'est parce que les consommateurs nous les demandent. On est là pour répondre aux besoins des clients. Plus nos magasins sont pertinents, plus ils sont à l'écoute des besoins des clients. Si les fournisseurs locaux sont en forte demande, on va avoir beaucoup de produits locaux sur nos tablettes. On est en affaires. Donc, c'est pas une question de faire du marketing avec ça, c'est une question de pertinence pour nos clients.
En terminant, M. Saint-Laurent, cette proposition, je présume que vous la faites parvenir aux différents ministres de l'Agriculture, de l'Alimentation, du Canada et des provinces également. Et de quelle façon ça pourrait s'articuler, selon vous, là, si d'emblée, là, l'ensemble du secteur ou une majorité d'entreprises dans le secteur accepterait justement une proposition comme celle-là?
Écoutez, j'ai parlé à plein d'intervenants. C'est pas un secret que d'un point de vue gouvernemental, il y a aussi une préoccupation là aussi. Donc, notre démarche s'inscrit dans une démarche qui existe déjà au niveau gouvernemental. Le ministre de l'Agriculture au Québec, M. Lamontagne, a même pris le leadership de cette initiative-là d'un point de vue national. La difficulté, pour être honnête, c'est que, je sais pas si on peut appeler ça ainsi, mais le déploiement de ça, c'est que le commerce est une juridiction provinciale. Donc, on ne peut pas imposer un code pour l'ensemble du Canada. Par contre, en même temps, ça ne serait pas sain d'avoir 10 codes différents. Ça ajouterait de la complexité autant aux fournisseurs qu'aux détaillants, parce qu'on fait affaire dans plusieurs provinces, comme plein de fournisseurs, comme plein de détaillants. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Fait que j'imagine que d'un point de vue politique, c'est pour ça que je pense que les ministres de l'Agriculture à travers le Canada se sont regroupés pour discuter de cet enjeu-là, sous le leadership de M. Lamontagne, que je salue d'ailleurs. Fait que c'est récent, on vient de lancer ça. Mais il y avait beaucoup de discussions qui étaient déjà en cours. On espère que ça va accélérer le tout. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on pense que c'est possible de s'entendre. On vient de le démontrer. Je pense que quand les gens vont lire le code, ils vont s'apercevoir que c'est le gros bon sens, puis c'est pas si compliqué que ça, là. Et moi, je pense qu'on va arriver à une entente rapidement, mais il va falloir qu'il y ait quelques petites discussions encore. Mais on a eu des discussions aussi avec d'autres organismes. On a parlé avec l'UPA, on a parlé avec CETAC. Tous saluent l'initiative. Fait que j'ai l'impression qu'on travaille tous dans le même sens. Ça prenait juste un petit déclencheur pour regrouper tout le monde autour d'une proposition qui peut être bonifiée sans aucun problème. Là, c'est une proposition. On est ouvert aux commentaires, puis on veut juste que ça arrive, parce que c'est bon pour l'ensemble de la chaîne. Parce que ça va être bon juste si tout le monde embarque en passant.
Bien, M. Saint-Laurent, merci beaucoup pour tous ces détails. Et puis, bonne chance pour l'entrée en application de ce code que vous proposez, et puis qui serait, je pense, fort bienvenu dans le milieu. Merci beaucoup.
Merci. Bonne fin de journée.
Ici Lionel Levac. Les autres distributeurs et regroupements d'épiciers accepteront-ils la proposition d'IGA Sobeys de discuter et éventuellement de mettre en place un tel code de pratique? On verra. Pour l'instant, chez les agriculteurs et les transformateurs, par exemple à l'Union des producteurs agricoles et au Conseil de la transformation alimentaire, on salue l'initiative et on espère qu'elle aboutisse et mène à des relations plus sereines dans le commerce de l'alimentation. Au revoir.